Par actualité.
Bonjour et bienvenue à l'émission Les Paractualités du 20 novembre 2017. Hélène Denis au micro et en manchette aujourd'hui. Québec facilite l'octroi des services aux élèves en difficulté. Augmentation du nombre d'étudiants en situation de handicap. Il n'y a pas d'âge pour se faire de nouveaux amis. Aussi, en manchette, la Commission de transport de Toronto demande 37,6 millions de plus pour 2018. 75 000 participants, donateurs et bénévoles aident à recueillir 6 millions lors d'événements organisés. En entrevue, je reçois Joanne Boutin, conférencière et auteure de « La maladie qui m'a donné des ailes » et Hélène-Élise Blais, co-créatrice du spectacle intitulé « L'Amphiroapé », comédienne et directrice musicale du collectif « De Kessé ». Québec facilite l'octroi des services aux élèves en difficulté. Satisfaction en Abitibi-Témiscamingue, c'est sur le site de Radio-Canada, la décision du ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, visant à accélérer l'accès à des services particuliers pour certains élèves en difficulté et bien accueillis en Abitibi-Témiscamingue. Le ministre a annoncé samedi l'abolition de la validation de diagnostic par le ministère, étape nécessaire pour le financement des services dédiés aux élèves handicapés, ou ayant des troubles d'adaptation et d'apprentissage. Désormais, les services pour ces élèves seront financés plus rapidement. Le directeur général de la Société de l'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue, Tommy Bédard, dis-je bien, pense que la décision constitue un pas dans la bonne direction, mais il se demande comment cela va s'appliquer sur le terrain. Il y a du positif étant donné qu'on va abolir les cotes qui donnent accès à un budget supplémentaire pour offrir un service aux enfants handicapés, ou aux élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. La directrice des services éducatifs et complémentaires à la commission scolaire du lac Témiscamingue, Nicole Lavoie, souligne que l'abolition de la validation gouvernementale va diminuer l'incertitude au niveau du financement reçu par la commission. Avec cette décision, les élèves handicapés ou en difficulté pourront recevoir de l'aide 5 mois plus tôt qu'à l'habitude, selon le ministère de l'Éducation. Sur uquebec.ca, entre 2009 et 2015, le nombre d'étudiants en situation de handicap, ESH, à l'UQAM a presque triplé, passant de 520 à 1514. Ce groupe représente aujourd'hui 3,6 % de la population étudiante. Parmi ces étudiants, le pourcentage de ceux qui représentent un handicap dit invisible, trouble d'apprentissage, d'attention ou de santé mentale, a augmenté de 38 à 78 %. À ce groupe s'ajoutent d'autres étudiants ayant des besoins particuliers, EBP, parents, des personnes issues de communautés autochtones venues de l'étranger, vivant une situation économique précaire ou présentant un parcours atypique. On observe ces phénomènes non seulement à l'UQAM, mais aussi dans l'ensemble du milieu universitaire québécois, souligne Monique Brodeur, doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation. Les efforts déployés par le système éducatif québécois et le développement de l'expertise en matière de prévention et de soutien ont permis de mieux répondre aux besoins particuliers de la population étudiante. Ainsi, plusieurs jeunes qui auparavant parvenaient difficilement à compléter leurs études secondaires réussissent aujourd'hui à accéder au cégep et à l'université. Monique Brodeur préside le groupe de travail sur l'éducation inclusive mis sur pied en janvier 2016. Une présence plus forte des ESH étudiants en situation de handicap et des EBP étudiants ayant des besoins particuliers à l'université constitue une bonne nouvelle, dit la doyenne. Notre mission originelle repose justement sur l'accessibilité aux études universitaires, souligne Monique Brodeur. Il n'est pas étonnant que le premier service québécois d'accueil et de soutien aux étudiants en situation de handicap, le SASECH, ait été mis en place à l'UQAM dès 1985. Créer un environnement d'apprentissage et d'enseignement exempt de préjugés et de pratiques discriminatoires à l'égard des étudiants ayant des besoins particuliers est devenu une obligation légale à laquelle les universités, l'UQAM y compris, ne peuvent pas se soustraire, rappelle la doyenne. Il n'y a pas d'âge pour se faire de nouveaux amis. C'est sur hebdorivenord.com, en route vers le parc avec les 6 bouts de chou de 3 et 4 ans de son service de garde en milieu familial. Amina Nézira passait souvent devant le CHSLD Émile McDuff. Un jour, elle s'est dit que de beaux échanges pouvaient naître de rencontres entre les enfants et les personnes âgées. Et depuis près de 2 ans et demi, autant les petits que les aînés attendent impatiemment ces moments privilégiés. Il y avait aussi une petite fille du groupe qui me parlait de sa grand-maman décédée, qui était devenue une étoile. Et ça m'a donné l'idée de créer des rencontres avec les résidents du CHSLD. Aujourd'hui, c'est devenu un rituel, raconte l'éducatrice du service de garde, les Petits Fennecs. Au fil des mois, chaque fête est devenue un beau prétexte pour aller bricoler avec les aînés ou encore leur concocter de délicieux biscuits, comme ça a été le cas à la Saint-Valentin. La plus récente visite des tout-petits remonte à Halloween, alors qu'ils sont débarqués les bras remplis de citrouilles, prêts à être décorés avec leurs amis aux cheveux gris. Même lorsque les visites au CHSLD ne sont pas prévues à l'horaire de la journée, les enfants du service de garde manifestent leur désir de s'y rendre. À cet âge, ils n'ont pas de préjugés. Et je pense que c'est une belle richesse que de leur offrir ces échanges. De part et d'autre, ça crée des contacts chaleureux. Les gens du troisième âge sont trop souvent laissés pour compte dans notre société, selon l'éducatrice qui estime que de s'impliquer auprès d'eux permettra aux petits d'acquérir de belles valeurs. Les parents des enfants qui fréquentent le service de garde de Mme Nézira se seraient d'ailleurs toujours montrés enthousiastes face à un tel projet intergénérationnel. Pionnier de Mira entre au cégep. Victor Ball étudie en technique de génie mécanique au cégep de Saint-Laurent. Il ne passe pas inaperçu dans ses cours. D'abord, il est toujours accompagné de Kwanza, sa chienne Mira. Ensuite, quand Victor en ressent le besoin, il se lève pour aller flatter Kwanza et lui parler doucement. Dans certains cours où l'on fait des travaux, je m'assois à terre avec mon chien, je mets mon cahier sur mon chien et je travaille, explique Victor, que nous avons rencontré à l'heure du midi au cégep de Saint-Laurent. Le prof me regarde, trouve ça drôle, mais il comprend. Le professeur comprend que pour Victor, la présence de Kwanza n'est pas un caprice, c'est un besoin. À l'âge de 10 ans, au terme de 5 années de suivi en pédopsychiatrie, Victor a reçu le diagnostic d'autiste de haut niveau. L'année suivante, l'organisme Mira lui a fourni Kwanza, une chienne labernoise spécifiquement formée pour répondre à ses besoins. L'anxiété et la modulation des émotions. Victor est ainsi devenu le premier garçon autiste au Québec à aller à l'école primaire avec un chien Mira. Il a aussi été le pionnier à l'école secondaire, puis au cégep, où il vient d'entreprendre des études. Sans Kwanza, estime Victor, il n'aurait jamais réussi à terminer sa 6e année du primaire, tant il était stressé sur les bancs d'école. À ses côtés, sa mère Stéphanie Larose essuie ses larmes en l'écoutant parler des immenses défis qu'il a dû surmonter. « Kwanza, va voir maman », dit Victor. La chienne s'exécute et se colle contre Stéphanie. C'est d'ailleurs sa spécialité, réconforter Victor ou un autre membre de la famille. Victor a bon espoir que les entreprises et les agences sauront s'adapter pour permettre la présence de chien Mira sur les lieux de travail. « sur le site de TVA Nouvelles, à 5 ans d'une thérapie génique par cellule souche, l'espoir de voir naître un traitement par cellule souche afin de freiner la maladie génétique dégénérative de leur adolescent est ravivé pour un couple de Québec. Les premiers prélèvements qui permettront de lancer la recherche en laboratoire ont enfin été effectués. Ça fait 11 ans qu'on ramasse de l'argent avec la Fondation et qu'on passe toutes les étapes préalables au traitement et là, le jour J est arrivé. On est près d'un traitement d'ici 2 à 5 ans, confie avec émotion Marjolaine Verville lors d'un entretien avec le Journal de Québec. La mère d'Alexis Verville-Tailleur a lancé la Fondation Leucodystrophie afin de dénicher un traitement pour cette maladie génétique dégénérative dont les symptômes s'apparentent à ceux de la sclérose en plaques. Son garçon, âgé de 17 ans, est atteint de leucodystrophie de forme 4H depuis qu'il a 3 ans, laissant poindre le spectre d'une mort en début d'âge adulte. Le 20 juin, après une batterie de tests, les premiers prélèvements de cellules souches ont été effectués sur l'adolescent. Le couple saura dans quelques semaines si suffisamment de cellules souches ont été prélevées afin de permettre à une équipe de chercheurs de l'Université de Montréal de tenter d'élaborer un traitement consistant en une thérapie génique par cellules souches. Ils prennent les cellules souches propres aux patients pour les transformer en cellules de cerveau. Ils vont corriger les cellules malades avec les cellules transformées. Ils remyélinisent le cerveau parce que le problème avec la leucodystrophie, c'est un manque de myéline au cerveau, illustre Mme Verville. La mère entend ensuite se battre afin que ce traitement onéreux, dont le prix oscillerait entre 50 000 et 100 000 $ par patient, soit accessible au plus grand nombre d'enfants possible. J'ai le plaisir de m'entretenir avec Hélène-Élise Blais, co-créatrice du spectacle L'Amphiroapé, comédienne et directrice musicale du collectif De Kessé. Bonjour, Mme Blais.
Bonjour.
Alors, merci d'être avec nous. Vous nous parlez d'un spectacle où cohabitent plusieurs genres et disciplines artistiques. D'abord, qui est L'Amphiroapé? De Kessé, pour employer l'expression consacrée, le nom de votre collectif.
OK. Ben l'amphiroapé, c'est un beau mot québécois hein, qui dit se faire avoir ou se faire peut-être mener en bateau, mais il y a des tours de bateau qui sont vraiment intéressants.
Oui, effectivement.
Alors, nous, l'amphiroapé revient dans nos trois tableaux, mais avec beaucoup d'humour et en même temps, il y a le tragique. T'sais, on se balance entre les deux univers.
Donc, vous nous faites vivre différentes émotions qui passent du rire aux larmes.
Absolument.
Qu'est-ce qui a inspiré cette production, Mme Blais?
Ce qui a inspiré, c'est que Kim Perrault, qui fait la mise en scène, et moi, on travaille au Centre Les Muses avec des personnes qui sont en situation de handicap depuis beaucoup d'années. Et on a un élève, Philippe David, avec qui on voulait vraiment travailler. C'est une personne qui a un imaginaire débordant,
ah oui.
qui est fantaisiste, qui a énormément de talent. Puis ça faisait longtemps qu'on regardait pour faire quelque chose ensemble. Fait qu'on s'est réunis les trois. Fait qu'on c'est une co-création. Alors, et Kim, et Philippe, et moi avons écrit L'Amphiroapé.
Et qu'est-ce que ça raconte, bon, les grandes lignes? Cette pièce? Ben,
c'est une pièce en trois tableaux.
Oui.
Alors, on se promène d'un univers à l'autre. On est en Tchécoslovaquie avec un conte. Après ça, on s'en va dans une friperie québécoise. Puis après ça, on se retrouve avec des beaux petits vieux pas mal sympathiques.
Ah oui. Et vous avez travaillé en collaboration avec l'actrice bien connue Suzanne Champagne?
Oui, on a été très, très, très chanceux d'avoir Suzanne avec nous, qui est la marraine de notre projet.
Ah oui?
Oui, oui, qui a été notre œil extérieur conseillère.
Mm-hmm.
Et en plus, Suzanne nous a offert, puis ça, on est très, très, très touchés, de travailler avec Claude Acolas, qui fait notre conception d'éclairage. Claude Acolas, c'est un concepteur d'éclairage.
Oh, on a perdu la communication. Claude Acolas, qui est un homme extrêmement connu dans le milieu du spectacle et quelqu'un sur qui on peut compter, grand, grand professionnel, un artiste en soi. Alors, je pense qu'on a perdu Hélène-Élise Blais. Mais j'ai ici les informations concernant le spectacle. Elle nous en a parlé assez suffisamment pour nous donner envie d'y assister. C'est vendredi qui vient, 24 novembre à 19h30, et samedi 25 novembre à 16h. Ça se passe à la Maison de la culture du Plateau Mont-Royal. Réservation par Accès Culture Montréal pour 2 $ par billet. Alors, ça vaut vraiment le détour. Elle nous a mis en appétit, et bon, ça a coupé court, mais on se reprendra peut-être. Hélène-Élise Blais, merci pour cette entrevue, puis désolée, ça a coupé, on ne sait pas pourquoi. Bon, alors, Mme Blais a rappelé, on va lui parler. Bonjour, rebonjour, Hélène-Élise Blais.
On s'est fait couper.
Ben oui, vous parliez de Claude Acolas, et moi, j'en ai ajouté, là, parce que je le connais, il est dans le milieu du spectacle depuis très, très longtemps, un grand professionnel.
Oui, absolument, puis là, nous sommes à la Maison de la culture présentement, puis Claude est en train de diriger le montage de l'éclairage. Alors oui, on est vraiment, vraiment privilégié.
Vous allez être bien éclairé.
Là. Bien éclairé, bien, avec du beau son.
Vous êtes combien sur la scène, Mme Blais?
On est les trois.
OK, d'accord.
On a toujours fait notre création en fonction de jouer aussi ce qu'on écrivait.
Ah oui, d'accord.
Mais Philippe porte les trois rôles principaux de chacun des tableaux, là.
Oui.
Puis nous, on est toujours avec lui et en musique, théâtre.
Et à qui s'adresse ce spectacle-là?
Aux adultes. C'est sûr que les enfants ou les adolescents, tout ça, vont y prendre beaucoup de plaisir, mais c'est quand même une réflexion, tu sais, sur la société, sur la vie. Fait qu'on avait le goût de s'adresser aux adultes, mais avec ce côté-là très fantaisiste. Tu sais, moi, je dis qu'il est bon pour le système immunitaire, notre show.
Ah oui, bien là, on en a besoin, surtout avec l'hiver qui s'en vient.
Bien, je vais vous dire aujourd'hui, là.
Oui, oui, oui.
Ça fait du bien.
Oui, mais sauf que le spectacle n'est pas présenté aujourd'hui. J'ai donné les dates tantôt, 24 et 25 novembre, 24 à 19h30 et 25 à 16h. Et pourquoi votre spectacle vaut le détour? Mais je pense que là, vous venez de donner une réponse. Là, c'est bon pour le système immunitaire.
Bien, on a eu la chance de présenter un tableau dernièrement au spectacle offert par les Muses à la Place des Arts à la 5e salle. Mm-hmm. Et la réponse du public a été tellement enthousiaste. Et ce qu'on entendait, c'est « ça fait du bien ».
Ah, bien ça, ça fait du bien d'entendre ça.
Ben oui, tu sais, ça leur donnait une récréation. Mais pas une récréation signifiante.
Oui.
Tu sais, les gens ont en même temps un propos où ils peuvent réfléchir et rire.
Mm-hmm.
Tu sais, on a été propulsés là après notre présentation dernièrement. Là, fait que là, on a vraiment le goût de recevoir les gens le vendredi et samedi.
Oui, et ça nous donne envie à nous de se laisser enfirouaper parce que là, ici, c'est dans le bon sens. On se laisse maintenant en bateau,
oui,
mais pour les bonnes raisons.
Oui. Ben
et
oui,
pourquoi
je
vous avez appelé
enfirouaper.
Pourquoi, en terminant, Mme Blais, pourquoi vous avez appelé votre collectif de Kessé qui s'écrit D-E-K-E accent aigu, C-C-D-E accent aigu?
Ben, tu sais, quand on est en création, puis on cherche, là, puis on se parle les uns les autres, même dans la vie courante, hein, ce terme-là revient souvent. Puis
c'est
un
vrai.
Un terme québécois, puis un son qui est savoureux.
Oui.
Alors, ce « de que c'est ». De que c'est que tu veux dire, de que c'est. Puis là, on s'est dit, oui, on embarque dans « de que c'est ».
Ah, ben,
on dit oui à l'enfer wapé, puis on dit oui à ses racines.
Oui.
Québécoise que nous avons. Là.
Une belle idée. Hélène-Élise Blais, ben, je vous dis le mot de Cambronne pour les deux représentations. Est-ce qu'il va en avoir d'autres?
Ben, on invite aussi les diffuseurs. Fait que oui, on espère vraiment, vraiment là, de lancer le bateau à la mer.
Oui, alors encore une fois, le mot de Cambronne, c'est à la Maison de la culture du Plateau Mont-Royal, vendredi et samedi. Merci pour cette entrevue.
Merci, au revoir.
Au revoir. La Commission de transport de Toronto demande 37,6 millions de plus pour 2018. C'est sur le site de Radio-Canada. La Commission de transport de Toronto a publié ses demandes budgétaires pour l'an prochain. L'agence municipale demande à la Ville une augmentation de sa subvention de 36,9 millions de dollars et un autre de 700 000 dollars pour Wheel-Trans ou Wheel-Trans, son service de transport pour les personnes handicapées. Elle propose de maintenir les services actuels, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas amélioration dans les services aux usagers et aucune hausse des tarifs l'an prochain. La Commission de transport de Toronto note qu'elle ne peut pas respecter la directive du conseil municipal qui demande à tous les services et agences de ne pas augmenter leur budget par rapport à 2017. L'agence de transport dit qu'elle n'a aucune nouvelle source de revenus et que ses coûts augmentent en raison de certains changements législatifs et de décisions prises antérieurement. La CTT prévoit que le nombre d'usagers passera de 536 millions à 539 millions l'an prochain. Le comité du budget de la Commission de transport de Toronto, CTT, se rencontre vendredi pour discuter des demandes de l'agence. $75,000 participants, donateurs et bénévoles aident à recueillir 6 millions de dollars lors d'événements organisés. À l'occasion de la Journée nationale de la philanthropie, la Société de leucémie et lymphome du Canada, SLLC, remercie les dizaines de milliers de Canadiennes et de Canadiens dont les gestes de bonté ont contribué à l'amélioration des résultats chez les personnes atteintes de cancer du sang. 6 millions de dollars ont été recueillis en quelques mois à peine avec le soutien de quelques 75 000 personnes qui se sont engagées envers la recherche, la collecte de fonds, le bénévolat ou des dons à la SLLC, donc la Société de leucémie et lymphome du Canada. Au cours de septembre et octobre, des Canadiens se sont unis pour appuyer les quelques 138 000 personnes atteintes de cancer du sang telles que la leucémie, le lymphome et le myélome. Ainsi, au cours du mois de sensibilisation au cancer du sang, en septembre, nous avons été témoins d'une grande vague de soutien de la part de donateurs qui, profitant d'un programme de jumelage de dons, DIA, groupe financier, ont recueilli 214 500 $ en quelques semaines à peine. Au cours de la même période, des centaines de bénévoles ont retroussé leurs manches dans le cadre des marches « Illumine la nuit », tenues partout au pays, alors que des dizaines de milliers de personnes et d'entreprises partenaires ont relevé le défi, marchant ensemble en solidarité et recueillant le montant record de 5,8 millions. Les fonds recueillis au profit de la Société de leucémie et lymphome du Canada sont investis dans le financement de la recherche et de programmes de soutien. En 2016, on estime que 22 340 personnes au Canada ont reçu un diagnostic de cancer du sang, alors que cette même année, 7200 ont succombé à la maladie. Grâce à nos sympathisants, nous avons pu investir 3,8 millions dans la recherche cette année, la somme la plus importante depuis notre fondation il y a 62 ans. Cet automne, nous avons lancé une première série d'émissions web destinées à informer le public sur les cancers du sang et la recherche. Allons-y avec les rafales. Des citoyens dénoncent la fermeture du guichet du Patro Laval. Le comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur à Laval réclame le retour du guichet automatique Desjardins du Patro Laval, situé sur la rue Bigaouette. L'appareil a été retiré le 14 septembre dernier. Dans la lettre ouverte rédigée par le comité, on mentionne que cette fermeture a entraîné des problèmes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Le guichet du Patro Laval était situé dans un endroit ne comptant aucune marche et une porte automatique. Il était aussi adapté aux usagers à mobilité réduite. Quelles sont les occasions de travail répondant aux besoins et habiletés d'un adulte vivant avec une déficience intellectuelle? Venez à la rencontre d'Action Main-d'œuvre Inc. qui présentera l'éventail des possibilités et les démarches à suivre pour trouver un milieu qui correspond à vos besoins. En visitant les différents stands, vous pourrez découvrir diverses organisations partenaires et rencontrer les employeurs présents. C'est mardi, demain, 21 novembre, 18h30 à 21h, au Compagnon de Montréal, l'adresse 6365 rue de Saint-Vallier. Et les inscriptions, Bérangère Solès, 514-381-2300, poste 27, je répète le numéro, 514-381-2300, poste 27 pour ce salon sur l'avenir professionnel d'Action Main-d'œuvre Inc. Le laboratoire de phonétique de l'UQAM est actuellement à la recherche de personnes non-voyantes depuis la naissance ayant le français québécois comme langue maternelle pour faire un test de perception acoustique. Le test dure environ 20 minutes et il consiste à écouter des sons et à identifier la voyelle perçue. Les participants recevront une compensation de 20 $. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire à babarlabo@gmail.com. Alors voilà pour les paractualités. On a eu des difficultés à joindre Mme Joanne Boutin, conférencière et auteure de La maladie qui m'a donné des ailes. On va peut-être se reprendre. Ici Hélène Denis, merci à mon invitée qui était là, Hélène-Élise Blais, pour nous parler du spectacle L'Empire Wappé. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson à la recherche et Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. À bientôt.